Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional.
Rapport annuel de la pauvreté 2022 en France. Jointe par téléphone Marie-Thérèse Briand, présidente du Secours catholique du Rhône. Découverte d'engins explosifs sous le pont de Franc à Villefranche-sur-Saône et opération de déminage. Pour nous en parler, l'adjudant de la brigade nautique d'Aix-les-Bains, Sébastien Reguem. Et en conclusion, Terrain d'entente, film de Gaël Gasque, coécrit avec Étienne Amiet, une projection débat le 25 novembre prochain au Bois d'Ouin. Calade, le journal. Pourquoi les Américains veulent-ils retourner sur la Lune ? Pour l'agence spatiale américaine, la Lune est un passage obligé avant un voyage vers Mars, la planète rouge. Article de Géo avec l'AFP. La NASA veut développer une présence humaine durable sur la Lune avec des missions de plusieurs semaines contre quelques jours seulement pour Apollo. Le but, mieux comprendre comment se préparer à un aller-retour de plusieurs années vers Mars. Dans l'espace lointain, les radiations spatiales sont bien plus intenses et représentent une réelle menace pour la santé. L'orbite basse où évolue la Station spatiale internationale, l'ISS, est en partie protégée par le champ magnétique de la Terre, ce qui n'est pas le cas sur la Lune. Dès la première mission Artemis, de nombreuses expériences sont prévues pour étudier l'impact de ces radiations sur des organismes vivants, ou encore évaluer l'efficacité d'une veste anti-radiation. De plus, alors que l'ISS peut souvent être ravitaillée, les voyages vers la Lune, situés 1000 fois plus loin, sont bien plus complexes. Pour ne pas avoir à tout transporter et ainsi réduire les coûts, la NASA veut apprendre à se servir des ressources présentes à la surface, notamment l'eau sous forme de glace dont l'existence a été confirmée sur le pôle sud de la Lune et qui pourrait être transformée en carburant. L'eau est constituée d'oxygène et d'hydrogène utilisés par les fusées. La NASA souhaite également tester sur la Lune les technologies qui lui permettront d'évoluer sur Mars. En premier lieu, de nouvelles combinaisons spatiales pour les sorties hors du vaisseau pour la première mission qui atterrira sur la Lune en 2025. 25 au plus tôt. Autre besoin, des véhicules pressurisés ou non pour que les astronautes puissent se déplacer. Enfin, pour un accès durable à une source d'énergie, la NASA travaille au développement de systèmes portables de fission nucléaire. Un autre volet du programme Artemis est la construction d'une station spatiale en orbite autour de la Lune, baptisée Gateway, qui servirait de relais avant le voyage vers Mars, explique à l'AFP Sean Fuller, responsable au sein du programme Gateway. Un peu comme passer à la station pour vérifier qu'on a bien tout. Un petit bémol toutefois sur la route de la Space. Indépendamment de Mars, une autre raison avancée par les Américains pour s'établir sur la Lune est de le faire avant les Chinois. Le grand concurrent est aujourd'hui Pékin. La Chine prévoit d'envoyer des humains sur la Lune à l'horizon 2030. Nous ne voulons pas que la Chine y aille et dise « c'est notre territoire », a déclaré fin août à la télévision le patron de la NASA, Bill Nelson. En tous les cas, dans la course à l'espace, on n'a pas oublié de marcher sur la tête. Of course. Rapport annuel de la pauvreté 2022 en France. Le Secours catholique a choisi cette année d'aborder la question spécifique de l'impact des crises Covid-19, inflation, hausse de coûts de l'énergie sur le budget des personnes rencontrées par l'association. Le point avec Marie-Thérèse Briand, présidente du Secours catholique du Rhône. Elle est jointe par téléphone.
Alors le thème cette année, c'est le budget des personnes les plus précaires, parce qu'en fait, on constate que l'effet conjugué de la pandémie du Covid de plus de 2 années, et puis l'inflation qui s'est ajoutée ces derniers mois, là ici, notamment l'augmentation sur les produits alimentaires, cause un vrai problème, une vraie chute dans le budget des personnes les plus en difficulté. Et je vois au Secours catholique, au niveau national, on a reçu cette année autour de 1 million de personnes, dont 500 000 sont des enfants, la moitié sont des enfants, et on voit bien que le reste à vivre des ménages, qui était autour, dans les années précédentes, avec un reste à vivre par personne, qui était autour de 7 euros par personne, hein, quand on a un minima social, un RSA, avec quelques allocations si on a des enfants, eh bien aujourd'hui, ce reste à vivre, il est plutôt autour de 5 euros par jour et par personne. Enfin voilà, des choses quand même un peu incompressibles, hein, l'alimentation c'est incompressible, et ça devient vrai, c'est une source de difficulté tout à fait qui est majorée, quoi, hein.
Donc le premier besoin, en quelque sorte, c'est toujours la question alimentaire. C'est ce que vous venez de nous dire, hein ?
Oui, parce qu'une fois qu'on a payé tout, c'est-à-dire qu'on a payé le loyer, l'énergie, les assurances, la mutuelle, enfin des choses de base, eh bien, on constate, en fait, si vous voulez, pour des personnes précaires, toutes ces dépenses-là, ça représente à peu près un peu plus de 70% de leur budget. Donc, il reste un petit peu, à peu près, à peine 30% pour le reste. Et au niveau des minima sociaux, les calculs qui ont été faits, c'est qu'il reste à peu près 5 euros par jour et par personne. Par exemple, pour se nourrir, c'est très peu.
Quelles sont les évolutions, en quelque sorte, des profils de ces ménages ?
Alors, les ménages, ça reste beaucoup des personnes seules avec enfants, donc souvent des femmes. Les familles aussi sont présentes parce qu'il y a des travailleurs pauvres, hein, des gens qui font du temps partiel pas choisi, des gens qui ont des activités qui sont peu rémunérées. Donc ça aussi, c'est des profils un peu nouveaux, en tout cas, qui s'installent dans la pauvreté. On a aussi des hommes seuls. Il y a une augmentation aussi des hommes seuls qui ont perdu leur, par exemple, perdu leur emploi et qui, à une cinquantaine d'années, se retrouvent avec des rémunérations très faibles, soit du reste de chômage, soit après du RSA. Des situations pour lesquelles on ne voit pas beaucoup d'évolution possible, en tout cas dans le contexte de soutien qui existe en France, et des gens donc pour lesquels la pauvreté devient structurelle.
Est-ce que c'est récurrent, c'est-à-dire que vous retrouvez régulièrement les mêmes familles ou il y a de nouvelles
Dans le Rhône, on a reçu cette année, alors il y avait eu une baisse hein, avec le Covid, à la fois il y avait moins de monde qui venait, mais il y avait des personnes nouvelles parce qu'il y avait besoin d'alimentation, tout ça, donc le public avait un peu évolué. Il continue un peu à évoluer donc, avec les éléments que je vous donnais, c'est-à-dire plus de femmes avec enfants, plus de familles avec enfants aussi, y compris des personnes âgées avec des retraites à peine à 1000 euros qui au niveau alimentaire notamment maintenant rencontrent des difficultés. Il y a un turnover, si vous voulez, dans les personnes qu'on reçoit, dans la mesure où des personnes qui obtiennent une aide alimentaire ou une aide financière sur plusieurs mois, parfois ne reviennent pas. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est d'organiser un peu un accompagnement quand les personnes l'acceptent, pour pouvoir se revoir et voir si le coup de pouce a été suffisant, si un autre peut l'être encore plus. Il arrive parfois aussi qu'on puisse examiner des aides financières qui sont au-delà de 1000 et plus d'euros, de façon à parfois à débloquer vraiment une situation, trouver un moyen de se déplacer quand on est en milieu rural, par exemple.
Un niveau de vie médian de 548 euros par mois, soit 5 euros par jour pour vivre. Un tiers aurait le droit au RSA, mais ne le demande pas. 60% des personnes interrogées sont en inactivité, les femmes seules, les grandes oubliées pendant la crise sanitaire. Découverte d'engins explosifs de la Seconde Guerre mondiale en mars dernier lors d'une opération de repérage sous le pont de Francs à Villefranche-sur-Saône et qui a donné lieu à une opération de déminage ce 14 novembre dernier. Les détails avec Sébastien Reghem, adjudant de la brigade nautique d'Aix-les-Bains.
Donc en fait, on a découvert des engins explosifs suite à lors d'un entraînement sur une reconnaissance de site. Donc le but, c'est de plonger sous des ponts. Donc à la base, on ne pensait pas trouver d'engins explosifs, mais plus des téléphones, des objets volés, des voitures. Et en fait, pendant la plongée, on a découvert ce qui nous paraissait être à la base un taquet d'amarrage. Et finalement, on a constaté que c'était une bombe avec la forme et l'empennage à l'arrière, en fait.
Combien de mètres vous êtes, pardon ?
Là, on était au maximum à 5 mètres. Alors nous, on essaie d'identifier, donc on ne touche pas. On nettoie autour. On essaie de déterminer la longueur, le diamètre, la forme, pour donner le plus d'informations des mineurs, en fait. Après, moi, je contactais des mineurs, je leur explique, j'ai trouvé un engin qui fait 1 mètre de long, un diamètre d'environ 30 cm, il y a des trous à tel endroit, il y a ça. Et en fait, en leur donnant leurs informations, c'est eux qui m'ont dit que c'est une bombe qui servait certainement, qui devait être placée là pour détruire le pont, en fait, qui n'a pas explosé suite à un dysfonctionnement ou un défaut d'utilisation. De ce type-là, non. Des obus, oui. Beaucoup plus petit. Dans le cadre d'un exercice de reconnaissance de site, donc un entraînement, on est venu là. C'est un site qu'on n'a jamais plongé, donc on a dit on va essayer. Et sous l'eau, on avait une forme qui était cylindrique, donc on regarde toujours un peu. Et on a déterminé que c'était un engin explosif. Après nous, sous l'eau, on manipule le gendarme plongeur, on ne manipule pas les engins explosifs. Nous. On se réfère toujours aux démineurs. S'ils nous disent que c'est sans danger, qu'on peut les extraire nous-mêmes, on le fait. S'ils ne peuvent pas venir. Là, comme c'était des gros engins explosifs, nous, on ne touche pas. C'est eux qui font l'extraction et qui nous donnent des directives. Donc là, ils nous ont dit qu'on pouvait les manipuler, les amener jusque là en les mettant sous le ballon. Donc c'est ce qu'on a fait.
L'intervention des plongeurs des mineurs consistait à localiser précisément les 3 engins explosifs, puis à les sortir de l'eau avec précaution. Ils sont ensuite acheminés vers Colmar pour être désactivés dans un centre spécialisé. Et pour conclure cette édition, terrain d'entente, le film de Gaëlle Gasque, co-réalisatrice, co-écrit avec Étienne Amiette, sociologue. Une projection débat se tiendra le 25 novembre à 20h30 à l'ancienne église du Bois-d'Oin, en présence des réalisateurs sur le thème « Cohabitation entre habitants et viticulteurs ». Le film documentaire réalisé dans le sud du vignoble Beaujolais porte sur la question de la cohabitation d'habitants d'un territoire confronté à l'usage de pesticides. Conversation avec Gaëlle Gasque et Étienne Amier.
Oui, c'est un travail sociologique réalisé en 2017, notamment dans le sud Beaujolais, dans la commune de Pommiers, auprès d'agriculteurs et riverains, où le sujet était l'impact des expositions aux pesticides sur les relations agriculteurs-riverains, ou d'enquêter sur qu'est-ce que font les enjeux sanitaires et environnementaux liés aux pesticides sur les relations et l'interconnaissance entre les relations de voisinage entre agriculteurs et riverains.
Et puis là, nous, à la proximité de Villefranche, il y a les communications qui sont là. Quoi. Villefranche, il y a le train.
C'est ça qui mène directement.
Ouais, voilà, on est à 5 km d'autoroute.
Alors, je me suis demandé si la thématique, elle est venue avec également une étude qui s'est faite sur certains volontaires viticoles.
L'étude épidémiologique SIGEXPOSOM, menée par le Centre Lyon-Bérard. Et effectivement, cette étude est concomitante au tournage du film documentaire. Du coup, on a pu filmer la restitution des résultats intermédiaires de cette étude, et où on retrouve dans le film des agriculteurs et des riverains qui ont participé à cette étude épidémiologique basée dans le sud Beaujolais.
Il y a parfois des épandages de pesticides très proches de chez eux, et ils sont obligés de fermer les fenêtres, de manger à l'intérieur quand il fait beau, donc ça c'est un problème.
Alors, on y reviendra peut-être un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut dire que l'arrivée en quelque sorte résidentielle, l'immobilier, c'est dans les années à peu près 89
Oui, c'est ça. C'est effectivement, l'enquête déjà initiale, sociologique, elle ne repose pas tant sur les pesticides et sur le risque lié aux pesticides, mais c'est sur les enjeux effectivement de cohabitation qui sont influencés par l'étalement urbain et l'évolution sociologique de l'occupation urbaine de territoires semi-ruraux comme le sud Beaujolais.
Tout ce qui était maison, c'était en vigne. On avait mon père avait 2 hectares en métayage. Là, il y avait un charrois qui faisait la croix comme ça, et puis tu avais une grande parcelle qui allait jusqu'à la maison des Assos, mais c'était le jardin de la cure. On n'y a plus de jardin de la cure.
Parce que ça, c'est lotissement, ils ont combien de temps là?
C'est de 90, hein, tu vois. On est parti en 89, ça s'est arraché en 88.
Donc Pommiers est un bel exemple, j'ai trouvé, parce qu'effectivement, c'est une commune rurale et on a vu pousser les lotissements, et surtout des lotissements résidentiels, on va dire, un peu haut de gamme, ce qui a amené une autre population, un autre mode de fonctionnement.
Effectivement, la pression démographique issue de gros centres urbains comme Lyon et Villefranche rapproche les lieux de vie des lieux de production et du coup qui confronte différentes manières de se représenter et d'utiliser entre guillemets le territoire.
Deux divergences, je dirais moi, au niveau social et aussi sur le côté mode de vie. Peut-être que vous voulez répondre, j'ai pas encore la réalisatrice, mais si elle veut aussi dire un petit peu de mots là.
Oui, deux rapports à l'espace, deux rapports à ce qu'on appelle la nature au sens large. De rapport au territoire, mais on a voulu aussi aller un peu plus dans la nuance que ça, puisque c'est une vision qui pourrait paraître grossière de dire qu'il y a des nouveaux habitants qui sont concernés par les pesticides et des habitants de longue date qui, eux, vivent avec ça. Ce qu'on a voulu montrer dans le film, c'est au contraire que ça concerne tout le monde. D'une part, que quand on habite là depuis longtemps, on est concerné aussi. Quand on est agriculteur, on est concerné aussi. Et que quand on est nouvel habitant, on est prêt aussi à écouter les pratiques qui existent déjà. On n'est pas forcément que dans la revendication un peu militante.
Si on arrive à parler avec les gens, expliquer, même des fois je leur fais voir, le voisin quand il vient me voir dans la vigne, je fais tu vois, ça c'est du midiou. Et puis il me dit j'ai pas eu de courgettes cette année. Je dis, ma frère, tes courgettes, c'est pas vrai, elles ont de l'odium. Elles sont cramées par l'odium. Je dis ouais, c'est. C'est pas parce qu'on est en bio aussi qu'on traite pas. Si je dis, on traite, même des fois, on passe des fois plus souvent. On essaye de réduire les doses, hein, mais on passe des fois plus souvent qu'en non bio, pas avec les mêmes produits. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir.
Terrain d'entente, film de Gaëlle Gasque, réalisatrice coécrit avec Étienne Namiès, sociologue, vous invite à une projection débat qui se tiendra le 25 novembre à 20h30 à l'ancienne église du Bois d'Oie. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.